bonjour à chacune et chacun que je n'ai pas encore vu de près. Ce matin, donc, y aura pas de... j'ai laissé tomber les PowerPoint ce matin. C'est ça à l'ancienne. Vous allez devoir vous concentrer, écouter, réfléchir. Donc, du désespoir à l'espérance. Hein. Pardon, c'est notre troisième thème. Alors, c'est pas très original pour Noël comme thème, mais... J'aimerais qu'on voit ça ensemble et voir comment ça peut devenir très personnel. Dans Matthieu 4, 16, on a ce premier verset qui dit « Le peuple qui vivait dans les ténèbres » alors c'est un verset qui est tiré de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, mais qui va être appliqué dans le Nouveau Testament à la venue de Jésus. « Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Ça parle d'une partie du territoire d'Israël qui était de l'autre côté du Jourdain et donc qui était en fait un territoire des non-juifs, des gentils. Et puis là aussi, ils verront la lumière et puis Christ a dû se retirer un moment dans ce territoire-là. Donc c'est le contexte, c'est ça. Mais pour nous, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et je pense que sans dénaturer le contexte premier de ce passage, on peut dire que tous les humains naissent, vivent et meurent dans le pays sur lequel plane l'ombre de la mort. Je viens de terminer un roman écrit par une dame irlandaise, pas du tout chrétienne, je pense, ou je ne sais rien en fait. Enfin, c'est pas un livre spécifiquement chrétien. Et c'est un très très beau livre qui raconte un parcours de vie, un changement à un moment dans la vie d'une trentenaire. Et elle raconte comment en fait sa vie a basculé le jour où à 5 ans, parce qu'elle se disputait avec un petit cousin, et puis il y avait leur grand-papa qui était mort il n'y a pas longtemps, et puis il lui a dit « mais toi aussi tu vas mourir ». Et elle dit « c'est là à 5 ans que j'ai réalisé qu'un jour j'allais mourir ». Et toute sa vie a basculé autour de ça. Quoi. Nous vivons dans le pays sur lequel plane l'ombre de la mort. Je dirais notre civilisation, pour nous ici dans les pays de l'Ouest, on fait tout pour faire comme si ça n'existait pas. C'est pas nouveau, c'est Napoléon qui avait donné, en tout cas pour la France, et ça a impacté une bonne partie même de l'Europe, il y avait une hauteur minimum pour les murs des cimetières. C'était minimum 2 mètres, je ne sais plus combien, ou 1,90 m. L'idée, c'était qu'on ne les voit pas de l'extérieur. C'est un petit détail, mais ça m'a toujours frappé, ce côté puéril que l'être humain a de faire l'autruche comme si on ne va pas mourir. Aujourd'hui, je dirais, une des choses qu'il y a, c'est que même si on a un certain âge, il faut qu'on s'habille comme les gens qui ont 20 ans ou qu'on fasse les mêmes choses. Juste avec cette idée que si on fait ça, on reste éternel, on ne mourra pas. Quoi. Et puis, on essaie d'essayer de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, ça c'est une bonne chose, c'est bien. Mais que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou pas, nous vivons tous en tant qu'êtres humains dans ce pays où plane l'ombre de la mort. Un jour, ça s'arrête. Et vous connaissez le proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc là où il y a de la mort, il y a le désespoir, parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est la chose qui est irréversible. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, parce que c'est, même si on essaie de le cacher, à un moment, ça nous rattrape tous, bien sûr. On a des gens autour de nous, ou même pour les enfants, notre canari ou notre hamster ou qui meurt. Et puis, Job, dans sa lutte avec Dieu, vous savez, ce personnage de l'Ancien Testament, un des... c'est passé il y a très très longtemps, puisque c'était probablement même avant Abraham, qui se retrouve pris dans cette tourmente là où il perd tout, tous ses enfants, ses biens, sa santé, etc. Et à un moment, il dit ceci, il est assez désespéré à ce moment-là, c'est dans Job 14. « Car un arbre, du moins, conserve une espérance. Même s'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr, enfouie dans la poussière. » Mais dès qu'il flaire de l'eau, voici qu'il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Mais lorsque l'homme meurt, il reste inanimé. quand l'être humain expire, où donc est-il alors ? Ça, c'est Job qui dit ça. Et puis qui se dit, ben ouais, au moins les arbres, voilà. Il y a toujours un petit bout de racine qui peut repartir, quoi. Mais nous, qu'est-ce qu'il en reste ? Et on voit comment, sans espérance, même les meilleures conditions de vie matérielles ben, peuvent faire que ben, on peut être désespéré. Hein. Alors on peut oublier, on s'est spécialisé là-dedans dans notre civilisation. Hein. On est les spécialistes de l'anesthésie, locale ou générale, ça dépend. Mais tout est fait pour vivre sous narcose, pour oublier le désespoir de ben, un jour ça va s'arrêter. Et puis, on est quand même devenu assez performant dans ce domaine-là, hein, pour cumuler les couches. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, donc c'est une autre époque, mais c'était la même chose, hein, il parle de ce temps-là, avant que Christ soit venu, et il dit, « En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. » Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il parle à des non-juifs. Hein. Sans espérance et sans Dieu. Pardon. Mais si on réfléchit un petit peu, on se dit que ben, l'espérance, c'est super hein, d'espérer des choses. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait beaucoup de choses que j'espérais quand j'étais plus jeune. Et puis, bof. Ouais, je ne dis pas qu'une ou deux ne se sont pas réalisées, mais beaucoup sont passés à côté. Alors on peut se dire, l'espérance c'est une belle chose, mais l'espérance, c'est du vent l'espérance. Hein. On espère. Et puis il y a des signes qui sont trompeurs. Parce qu'on peut espérer quelque chose, il peut se passer quelque chose qui semble nous dire que notre espérance... va nous amener à une réalité, et puis plus rien. Hein. Imaginez que vous êtes perdu dans le désert, et vous allez mourir de soif, et vous marchez, et tout d'un coup, vous trouvez un verre d'eau. Pas un verre d'eau, un gobelet pour boire. Hein. Ouais. Et puis vous pouvez dire, super, quoi. Mais ce n'est pas parce que vous avez trouvé un gobelet que vous allez trouver de l'eau. Et vous pouvez mourir 2 heures plus tard de soif avec un gobelet à la main. Et moi, souvent, j'ai l'impression que l'espérance, c'est un peu comme ça, quoi. On espère quelque chose, on voudrait, puis d'un coup, il y a quelques signes là qui nous semblent dire « Ah oui, j'ai trouvé un gobelet, j'ai trouvé un gobelet. » Puis je meurs de soif avec mon gobelet à la main, quoi. Ça n'a rien changé. Hein. Alors, on peut se demander, vous demandez où je veux en venir, hein, si je veux à tout prix vous déprimer dans cette période d'avant, au cas où vous ne le seriez pas assez. Mais il faut un peu de noir pour faire ressortir la lumière, toujours. On peut se demander en quoi l'espérance de Noël est différente des autres. Parce que c'est joli, mais c'est encore des promesses, et tout le monde sait bien, hein, même si on n'est pas engagé en politique, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. pas forcément ceux qui les disent. Mais je pensais à 3 choses, en tout cas, qui peuvent nous... nous donner un support ou quelque chose de concret et nous montrer en quoi l'espérance de Noël est différente de cette fausse espérance-là. J'ai oublié de préciser, mais l'espérance ne s'achète pas. On ne peut pas l'acheter. On peut acheter des assurances, mais on ne peut pas acheter de l'espérance. Et c'est Paul aussi qui le dit. Il écrit à Timothée, il dit « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. » Donc on ne peut pas acheter de l'espérance, et puis on le sait tous, même si on est riche. Alors, quelles sont ces 3 choses qui font que notre espérance, en tant que croyant, et puis lié à ce que Christ vient faire à Noël, peuvent avoir de la consistance. Ben, la première chose, et l'essentiel bien sûr, et c'est ce qu'on a célébré avec ce mémorial du repas où Jésus, du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, c'est le fait que l'objet de notre espérance est vivant. Donc on n'espère pas une chose hypothétique, on espère dans quelqu'un, et cette personne-là, elle est vivante. Et elle est vivante et il ne peut plus mourir parce que c'est déjà fait et qu'il en est ressorti. On a ce verset que j'aime bien, c'est l'introduction aussi de Paul qui écrit à Timothée et qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. » Notre espérance, ce n'est pas que ça va aller mieux, qu'on ne sera pas malade, qu'on sera plus riche, que nos enfants iront bien, que, etc., etc. Notre espérance, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Elle est personnifiée dans quelqu'un. Et quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, mais c'est celui qui, effectivement, a commencé en venant à naître sur terre, ce qu'on célèbre à ce moment, qu'on a choisi arbitrairement, pour des raisons politiques essentiellement, de fêter à ce moment-là. Mais ça, ce n'est pas important, c'est la réalité qu'il y a derrière qui compte. La deuxième raison qui est proche de la première, et qui en est liée, justement, c'est, je l'ai dit, donc, c'est parce que c'est une personne, mais la deuxième, c'est parce que il ne peut pas mourir, ou plutôt il a traversé la mort et il a vaincu. L'apôtre Pierre nous dit « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Une espérance vivante. Parce que, ben voilà, comme j'ai dit, j'espère, et puis même quand j'obtiens ce que j'ai espéré sur terre, c'est une chose qui va disparaître tôt ou tard. J'espérais être riche, mais un jour je serai mort et je serai plus riche. J'espérais être en bonne santé, mais un jour je serai plus en bonne santé. J'espérais ci, j'espérais ça, mais même quand on l'a, voilà, un jour ces choses-là, elles disparaissent parce qu'elles sont temporelles, matérielles. Mais Christ est notre espérance et il est une espérance vivante. Et il ne peut pas mourir, ou plutôt il est mort et la mort n'a pas su le retenir, alors il est revenu à la vie. Et donc notre espérance, ce n'est pas qu'il se passe quelque chose, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est infini, éternel, immuable, il est Dieu lui-même. Mais il est Dieu qui s'est fait homme aussi et qui peut nous comprendre, que nous pouvons connaître, dont nous pouvons apprendre l'enseignement qu'il a laissé, etc. Mais il est vivant pour toujours. Alors ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, ça pourrait rester des faits lointains. Ok, Jésus est venu, c'était Dieu, il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité. Et puis, après cette vie, si nous l'avons accepté, nous avons une destinée éternelle. C'est magnifique, c'est super, c'est essentiel, c'est important. En même temps, pour notre vie sur terre, comme dirait Renaud, ça ne change pas le cours des rivières. De savoir qu'après cette vie, ça ira mieux, ben merci. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens opposés à ce qu'ils appellent la religion, ou qui a raison des fois, reprochent au christianisme. C'est juste un truc pour supporter sans se révolter la misère sur terre. Ça ira mieux après. Vos patrons vous exploitent, mais ce n'est pas grave. Au ciel, vous serez bien. Vous êtes esclave, mais ce n'est pas grave, au ciel, vous serez libre, etc. Et puis, ben, pour le moment, taisez-vous et supportez. Quoi. Et l'espérance chrétienne est beaucoup plus que ça. Alors oui, effectivement, un jour Jésus va revenir, peut-être on sera encore là ou pas. En tout cas, nous, un jour, on va mourir, ça c'est sûr. Et puis, on a une espérance pour une vie après cette vie, qui est largement meilleure. Cette vie, c'est quelques années d'école pour la vraie vie après. Donc ça, c'est réel, c'est certain. Mais ça serait triste si c'était juste pour après. Et dans la définition qui est donnée de la foi dans Hébreux, au chapitre 11, je pense que vous connaissez presque tous ce verset par cœur, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère. Mais comment je peux être assuré d'une chose que j'espère, puisque justement ce que j'espère, c'est que je ne l'ai pas encore. Et si je ne l'ai pas, est-ce que je l'aurai? Vous voyez, c'est un peu le chien qui se mord la queue, comme ça, en tournant rond. Mais si on continue, il y a pas mal de versets ce matin, mais ils sont importants. Dans son magnifique texte sur l'amour de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, Paul parle de l'amour. Il explique tout ce que l'amour n'est pas, tout ce que l'amour est. Et il termine ce chapitre en disant ceci. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et là, on arrive à un tournant, c'est qu'on a dit au début, enfin j'ai dit au début, que notre espérance n'était pas quelque chose, mais c'était une personne, que c'était Christ, qu'il est vivant, que la mort ne peut pas l'atteindre. Mais ici, ça devient encore plus personnel pour nous. Hein. On a la foi, l'espérance et l'amour. Et en fait, l'espérance comme la foi sont juste des outils, des moyens pour être connecté à quelque chose d'autre qui est plus grand. C'est l'amour. L'amour qui est Dieu est amour. C'est un petit peu comme quand on voit ces grosses fusées qui partent là pour aller dans l'espace, mettre des satellites ou quoi que ce soit. Vous avez cette énorme partie qui est remplie de carburant, qui sert juste à décoller. Hein, et puis au fur et à mesure que ça avance, il y a un étage qui tombe, et puis il y a un deuxième étage qui tombe. Et puis finalement, il ne reste que la petite capsule qui, elle, va faire son voyage. Hein. La foi et l'espérance, c'est ces gros trucs-là qui servent à... beaucoup de carburant, en fait, pour quitter la pesanteur, tout ce qui nous lie à la terre ici, qui fait que c'est lourd, c'est compliqué, on va mourir, on est malade, on peut être pauvre, on peut être trahi, on peut être abandonné. Il faut énormément de carburant pour décoller de ça, et la foi et l'espérance font ça. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse être rempli d'amour. Et le dernier verset dans cet enchaînement, on trouve dans Romains 5:5, et dit ceci: or l'espérance ne trompe point, hein, ne ment point, parce que l'amour de Dieu est présent, EST, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est là où c'est essentiel, et puis on l'a entendu dans le très beau témoignage de Françoise ce matin, hein, j'ai été transformé par le Saint-Esprit en moi. L'évangile, c'est Christ en nous. L'évangile, c'est pas aller à l'église, faire ci, faire ça. L'évangile, c'est Christ qui, par ce mystère qui a commencé à Noël, rend possible que le contenu soit plus grand que le contenant. Je ne sais pas en physique s'il y a des choses comme ça qui existent ou pas, Thomas ou David, hein, mais normalement, le contenu doit toujours être un peu plus petit que le contenant. Noël, Dieu invente un nouveau concept, moi qui me plaît beaucoup. C'est comme si vous pouviez mettre un ours brun dans un dé à coudre, une baleine dans une boîte d'allumettes. Le créateur de l'univers vient dans sa création. Ça encore, ça nous impressionne moyennement. Mais l'évangile, c'est que le créateur de l'univers peut venir en moi. Ça m'impressionne plus. Et en même temps, je suis bien conscient qu'il est beaucoup plus grand que moi. Hein. Ce n'est pas le fait qu'il se réduit à être tout petit, mais c'est un mystère, il est en moi, que j'illustre souvent avec le témoignage de la petite bouteille en verre perdue au fin fond de l'océan, mais remplie d'eau de mer, hein, et puis qui dit « Je suis dans l'océan et l'océan est en moi ». Cette façon-là que nous sommes en Dieu, hein, et que Dieu est en nous. Et Noël, c'est justement la démonstration éclatante et le point de départ d'une nouvelle façon de faire, c'est on va changer l'extérieur par l'intérieur. On va s'infiltrer. Et Dieu infiltre ce monde et prend la forme la plus faible. Je l'ai partagé au début quand on avait eu le thème sur de l'infini au limité. Vous imaginez, pour un Dieu créateur qui a tout fait, se retrouver limité à un bébé qui n'est pas capable de se nettoyer, de se nourrir, de rien faire, au début même pas de se retourner, totalement dépendant de gens aussi sérieux et fiables que les humains. Hein. C'est effrayant. Mais il prend ce risque-là, entre guillemets, et il vient par l'intérieur nous remplir. Or, il est dit ici que l'espérance ne trompe point, donc ce n'est pas un discours creux, parce que l'amour de Dieu est maintenant, au présent, aujourd'hui, là, répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Je ne sais pas pour quelle raison, mais pendant des années, mais longtemps, hein, j'ai lu ce verset et je lisais, pourtant il y avait écrit « et », je sais lire à peu près normalement, Et je disais, oh, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs par le... Je ne sais pas pourquoi je le lisais au futur. Peut-être parce que ça me semblait plus naturel, quoi. Hein, ça fait partie de l'espérance. Non. L'espérance ne trompe pas parce que Dieu nous a donné déjà maintenant la réalité. Pas la totalité, mais la réalité. Et c'est en ça que l'espérance qui est annoncée par Noël, qui est le seul vrai remède au désespoir, est différente. C'est que non seulement elle ne ment pas, non seulement elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas disparaître, elle ne peut pas nous être volée, elle ne peut pas nous être enlevée, elle ne peut pas se dévaluer, il n'y a rien qui peut la détruire, mais en plus, elle est concrètement déjà là en nous. Parce que l'amour de Dieu est là en nous, et c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous tient debout, c'est lui qui fait que notre vie de croyant, notre vie de chrétien, n'est pas juste une enveloppe remplie d'hélium, et puis on flotte en espérant ne pas rencontrer un cactus, parce que ce serait la catastrophe. Alors que lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, rencontrer un cactus, ça fait mal, mais ça veut dire que c'est de l'amour qui va sortir. Vous voyez la différence? Les épreuves de la vie ne vont pas nous désespérer. Dieu va les utiliser pour faire sortir un petit peu de cet amour qu'il veut mettre en nous. Et c'est le seul vrai remède au désespoir. Mais en même temps, je me demande combien de gens croyants, hein, donc je me mets dedans, qui croient réellement que Dieu existe, qu'il a créé l'univers, Noël, Jésus, en fait, il est venu. Mais qu'est-ce que j'en vis de ça, jour après jour, cette espérance-là, hein? Combien de fois je ne remplace pas cette espérance par l'illusion d'eux, hein? Par de la distraction, ou plutôt de, comment on appelle ça, quand on détourne l'attention. C'est un bon un nom, je l'ai oublié maintenant. Hein? Juste pas penser à. Et puis, même notre façon de célébrer cette période et les fêtes de Noël, bah c'est super Noël parce qu'on va manger, on est en famille, il y a des cadeaux, ça brille, il y a des lumières. Puis c'est bien, une période où, dans notre hémisphère en tout cas, les jours sont courts, il fait nuit, il fait froid, on est fatigué, on languit des vacances. Alors il y a toute cette lumière et ces cadeaux et tout ça, et c'est bien. Et puis au milieu de là, bah, on va quand même à un culte de temps en temps, et puis on a la fête de Noël où on va se rappeler que Jésus est né. Mais c'est triste. Parce que ce que Dieu nous propose, c'est que cet amour qui peut être répandu dans nos cœurs, on le reçoit par la foi, mais qui est réel en nous, cette espérance, c'est une espérance du quotidien, de l'heure après heure, de la minute après minute, pour maintenant, pour chaque jour. Mais souvent, ce qui nous empêche de nous en nourrir, c'est que c'est tellement plus facile d'accepter la distraction que de faire face au vide pour se rappeler l'espérance et d'être rempli par l'amour. Et on a besoin que Noël devienne quelque chose de personnel, d'intime, cette rencontre avec. J'ai pu passer cette semaine 2 heures magnifiques avec notre voisin, qui est théologien laïque de l'Église catholique. Il a participé à une de nos soirées du cours Alpha. On a passé 2 heures à échanger sur la vie avec Dieu, la foi, la... c'était vraiment merveilleux, c'était une personne super, peut-être vous aurez l'occasion de l'entendre un jour. Et je me disais, voilà, on a fait connaissance il y a presque 2 ans avec David, hein, on sortait un dimanche matin, on sortait d'un culte, on était les 2 derniers, et puis il est passé par-dessus le grillage, il nous a fait, hey, vous avez le temps pour un apéro? Et puis on s'est approché, puis moi j'avais pas le temps, donc quand j'ai pas le temps, ça veut dire que je parle que 20 minutes, hein. David est resté encore très longtemps après, il paraît, c'est Christophe qui me l'a dit. Voilà. Et puis on s'est dit, oh ben, on a vu de suite qu'on avait des atomes crochus, et puis il faut qu'on se voit. Et puis pendant 2 ans, on s'est envoyé des messages en disant, il faut qu'on se voit. Puis je le voyais par-dessus le grillage, et puis on disait, il faut qu'on se voit. Et puis je disais à tout le monde, il est sympa, parce que les messages qu'on avait échangés, c'était, ouais, il est sympa, puis on va se voir, hein. Puis on se croisait dans la rue, ah, il faut qu'on se voit, et puis c'est super, quoi. Et puis, ben là, voilà, hop, hop, je suis passé chez lui, et puis il me dit, ah, rentre, ah, mais j'ai du temps, assieds-toi, un café, ben. Voilà, je dis 2 heures, c'était peut-être 2 heures et demie, voilà. On a eu un échange, Et c'était magnifique. Je suis ressorti de là, puis depuis, il n'arrête pas de m'envoyer des mails. C'est génial, il faut qu'on se revoie, ça m'a fait du bien, c'est super. J'ai failli pas être là ce matin parce qu'il m'avait commandé des livres, je suis passé lui apporter à 10h moins le quart. Mais rentre, tu as bien un quart d'heure, ça commence qu'à 10h. Parce que lui, ça commence à 10h10. Hein, j'ai dit non, je peux pas. Mais voilà. Et je pense que souvent, avec Dieu, on fait ça. Hein. Oui, on sait qu'il existe, il est à côté, il m'a fait bonjour par-dessus le grillage, il est né à Noël, là, 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 on prend la Sainte-Seine, on va à l'église. Et puis, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Hein. Et puis, le temps passe, et puis, il faut qu'on se voit. Et Jésus dit, je me tiens à la porte, et je frappe. C'est à des croyants qu'il dit ça, c'est à l'église, hein, c'est pas aux non-croyants. Il dit aussi aux non-croyants, bien sûr, mais... Premièrement, il dit aux croyants. Et puis, oui, il faut qu'on se voit, Seigneur. Hein, ben, entre, je sortais faire des courses, mais il faut qu'on se voit. Hein, tu peux rester à la maison. Et je suis toujours sidéré pour ma vie. Alors que, ben, comme vous, on a ces moments où on s'est déjà assis avec Dieu et puis on a passé un moment avec lui. Et là, enfin, l'espérance était réelle parce que c'est flot d'amour en nous. Puis on a mangé de la présence de Dieu et on se dit, ah, je sais que c'est ça qui me fait du bien. Et je peux laisser passer combien de temps jusqu'à la prochaine fois? Oh, je continue d'aller au culte, de lire mon petit truc le matin vite fait, de dire une prière au repas, de faire... là. Mais non, un vrai rendez-vous. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un rendez-vous avec un ami, si je n'ai pas 2 ou 3 heures, j'y vais pas. Non, mais... Vous pouvez pas rentrer, salut, ça va? Ouais, moi ça va, et toi ça va? La famille, ça va? Ouais, la famille, moi aussi. Ok, salut, hein, ça m'a fait plaisir. Non, ça, on fait ça avec des étrangers, pas avec un ami. Hein. Et Noël, c'est ça. C'est Jésus qui dit, bah, écoutez, moi, je demande qu'à venir chaque fois dans l'étable de ton cœur. Ça ne me gêne pas qu'il y ait de la paille, ou même pas que de la paille. Hein. Vu qu'il y a des animaux qui y vivent, en tout cas, il y a autre chose que juste de la paille. Mais ça ne me dégoûte pas, ça ne me gêne pas. Je veux juste que tu m'accueilles. Et puis, le seul qui pourrait exiger quelque chose dans l'univers, parce que quand même, il a tous les droits, hein, et ben il n'exige rien, juste il dit, est-ce que je peux venir? Et Noël, c'est ce moment où on dit à Dieu, ben écoute, ouais, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, en fait, je peux pas faire le ménage, c'est toi qui dois le faire, mais ça fait rien, entre amis... Je te reçois comme ça, je suis en pyjama, ça fait rien. Je n'ai pas fait le ménage, ça fait rien. La vaisselle est sur l'évier, ça fait rien. Viens. Et puis, là, dans la crèche de notre cœur, on va vivre ce moment avec lui. Et puis voilà, puis d'un coup, on se dit, oh, ça fait, waouh, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, ça fait 1 quart d'heure, ça fait 5 minutes. Avec un Dieu qui a inventé le temps est très relatif. Hein, c'est pas, il y a des minutes qui durent une éternité, il y a des éternités dans une minute, tout est possible. Mais c'est de cela que nous faisons. Et finalement, lorsque ça devient de plus en plus réel, il se passe une chose magnifique, c'est que même quand on essaye, on ne peut plus désespérer. Et il y a ce très très beau verset dans l'Ancien Testament, alors je vais vous épargner tout le contexte, je le sors du contexte, mais ce que je dis est quand même vrai, parce que c'est en accord avec le reste des Écritures. C'est dans une prophétie qui est adressée à une certaine tribu d'Israël. Et je le lis dans la traduction d'Arbi, qui est très correcte, littéralement, parce que c'est la seule qui le rend. Dans Zacharie 9, 11 et 12. « Donc, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse, etc. » où il n'y avait point d'eau. « Et revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. » Aujourd'hui même, je le déclare, je te ferai ceci, c'est ça. Hein. « Prisonniers de l'espérance. » Et les traductions plus récentes ont traduit prisonnier avec une grande espérance. Mais littéralement, il est écrit ça. Prisonnier de l'espérance. Et j'aime cette idée. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, je suis fâché avec Dieu, mais réellement, sérieusement. Et puis, je me dispute avec lui. Et puis, je lui dis, puisque c'est comme ça, je ne respire plus, non pas, vous savez, hein, je ne te parle plus ou je ne fais plus ci ou là. Et puis, je me dis, voilà, je vais juste rester désespéré. Et puis, j'entends Dieu qui rit. Et puis, je ne peux pas. Je suis prisonnier de l'espérance. Parce qu'un jour, on l'a rencontré. L'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté, si vous avez touché la parole de vie, c'est ce que nous avons fait. Nous, on était avec lui, mais après un moment, pas quand on vivait avec lui, justement, après, lorsque son esprit est venu en nous, ben voilà, ça, on l'a vécu. Hein. Et c'est pour ça que les mêmes qui avaient peur et qui se sont cachés quand Jésus a été crucifié, quand après la Pentecôte, on leur dit « si vous parlez encore de ce Jésus, on va vous couper la tête », je dis « écoutez, vous voyez ce que vous avez à faire, mais nous, on va continuer de parler ». Pourquoi ? Parce qu'on est prisonnier de cette espérance quand on l'a vécu réellement. Oui, il y a des moments où on se dit « ah, j'en ai marre, j'aurais mieux fait jamais le cas, si j'aurais été plus, ma vie aurait été plus simple si je ne l'avais pas connu ». Et puis, on peut dire toutes les horreurs qu'on veut, puis Dieu ne se vexe pas, hein. Et comme les parents, ils savent que les enfants, c'est les enfants. Et puis, il attend, et puis finalement, on dit « mais ouais, tu as capturé mon cœur ». J'aime beaucoup ce vers d'Éluard. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Et c'est ce que Dieu fait. Hop, il a capturé nos cœurs. Et même dans les moments les plus sombres, nous sommes prisonniers de l'espérance. C'est une belle prison, c'est celle que je préfère. Et une espérance vivante, éternelle, immortelle, et qui ne trompe pas, et qui n'est pas juste une promesse pour le futur, parce qu'aujourd'hui, maintenant, dans ce moment, je peux être rempli de l'amour de Dieu, qui est éternel, qui est intemporel, qui est là. Et ça, c'est Noël. Et pour la fête de Noël qu'on a samedi prochain, normalement, si ça se concrétise, mais je crois que oui, les enfants vont nous chanter un petit chant de Noël, dont j'aime énormément le texte, et qui dit « Noël n'est pas Noël si ce n'est pas dans ton cœur. » Profondément, au fond de toi, ce beau Noël commencera. Et c'est ça. Alors, ne nous laissons pas distraire, parce que paradoxalement, Noël, c'est la période où on a le moins de temps pour Dieu. Avec tous ces repas de famille, ces cadeaux à faire, ces maisons à décorer, hein ? Alors qu'en fait, on célèbre quelqu'un qui est venu dans l'incognito le plus total, dans le dénuement le plus total, dans la simplicité la plus grande, même si bon, il y avait quelques anges et des cadeaux, des choses comme ça. Hein ? C'est vrai, mais ça aussi, on peut les avoir. Hein ? Donc, ne nous laissons pas voler Noël par Noël. Hein ? Il y en a plusieurs. Voilà, et puis accueillons-le en nous parce que c'est ça. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous qui étions désespérés dans le désespoir, nous sur qui planait l'ombre de la mort, des prisonniers de l'espérance. Et c'est magnifique et nous aimons ça. Et je veux te demander pour moi et pour mes amis ici et pour chacun que nous ne nous laissions pas voler Noël, mais que nous puissions vivre cet amour déversé dans nos cœurs, aujourd'hui, maintenant, par ton esprit. Quelles que soient nos situations familiales, émotionnelles, matérielles, faciles ou difficiles, compliquées, que nous puissions vivre ce Noël en étant connectés avec toi, en t'acceptant, en vivant ce miracle du petit qui accueille le plus grand, et juste en se laissant remplir de toi, Seigneur, parce que c'est de cela que nous avons besoin. Alors merci pour ces moments où nous pouvons y réfléchir et le vivre communautairement, et que nous puissions continuer de le vivre personnellement aussi, pour nous réjouir ensemble et le partager quand nous nous retrouvons encore une fois.